Radio Kawa présente un dimanche sur deux dès 21h, Inks et ses complices débarquent pour vous parler jeux vidéo. Dossiers, interviews, chroniques, rétrospectives, quiz. Pendant une heure, tout est possible. Accrochez-vous, le Player Club est ouvert.
Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 43e numéro du Player Club. Nous sommes le dimanche 22 novembre et ce soir on va causer de l'avenir d'Ubisoft. Alors attention, je vous vois venir, je veux donc préciser de but en blanc, nul doute qu'Ubisoft est un avenir. La question de ce soir est de réfléchir à quel avenir, aussi bien sur un plan économique que créatif, avec mes invités journalistes, Oscar Lemaire et JB. Sortez vos assassins et vos chéquiers, car jusqu'à 22h, on va causer du géant français du développement et de l'édition de jeux vidéo. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag LePlayerClub, puisque j'y puiserai vos questions et vos réactions au cours de l'émission.
De 21h à 22h, le Player Club.
Et donc, ce soir, comme je l'ai dit il y a un instant, j'accueille Oscar Lemaire. Bonsoir Oscar. Alors, on te connaît évidemment comme l'homme des chiffres et l'homme du beau verbe sur Gamekult, et notamment dans plein d'articles sur Gamekult Premium, je ne me trompe pas.
C'est ça.
Donc on peut souscrire à un abonnement pour pouvoir lire une partie de ta prose.
Oui, exactement, il faut payer.
Et puis pour lire l'autre partie, on peut notamment te suivre sur Twitter, @OscarLemaire.
Ouais. Voilà.
Avec nous aussi JB, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, ancien des tauliers, tu
eh
as
oui.
aussi, évidemment, et tu continues d'écrire pour ton propre site, theplayer.com.
Ouais, après quelques longues semaines d'inactivité, ouais, j'ai un peu relancé la machine. Évidemment, j'ai dû faire dans le méchant, donc j'ai défoncé Life is Strange, mais c'est normal. faut bien se remettre un peu d'aplomb. Voilà, et donc évidemment, et à côté de ça, je participe toujours puisque je oui. réalise un magazine qui s'appelle Rétro vers le futur avec l'ami Dr Lacave, ex de No Life. Mm-hmm. D'ailleurs, je profite pour solliciter les gens à participer au Ulule pour le 7e numéro de ce magazine.
Ouais.
Puisque dans 14 jours, c'est fini la campagne et on aimerait pouvoir la finaliser et la conclure correctement, c'est-à-dire avec un financement à 100% au moins, et pour que les gens qui ont pu participer puissent recevoir surtout leur magazine, voilà.
Tout à fait, donc n'hésitez pas à foncer, ulule.com/rvlfm7, ou alors si l'URL était trop compliquée pour vous, vous pouvez la retrouver évidemment sur la page de l'épisode. On va donc attaquer cette émission consacrée à Ubisoft et à l'avenir d'Ubisoft, et j'aimerais commencer évidemment par cette première moitié d'émission à parler un petit peu du chapitre économique, financier, de parler évidemment de l'approche de Vivendi. Je vais commencer par une première question qui va être, pour commencer un petit peu plus dirigée vers Oscar, est-ce que tu peux nous expliquer, pour qu'on comprenne un petit peu, pour les gens qui n'ont pas trop suivi cette affaire de près, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que Vivendi et le président de son conseil de surveillance, Vincent Bolloré, viennent chercher chez Ubisoft, par quels moyens est-ce que Vivendi et Bolloré approchent Ubisoft, qu'est-ce qui se passe?
Tout simplement, ils ont acheté une partie des actions d'Ubisoft et de Gameloft en même temps. Mm-hmm. Donc là, ils sont montés à plus de 10%. Je crois que dans Gameloft, ils sont carrément passés à plus de 17%. Mm-hmm. Donc ce qui fait qu'ils sont assez rapidement devenus, pour Ubisoft, le premier actionnaire devant la famille Guillemot. Et puis, alors, ce qu'ils cherchent, tout simplement, c'est une société de jeux vidéo, quoi.
D'accord. Ils cherchent à la contrôler. C'est assez clair.
Ouais. C'est pas dit non plus clairement qu'ils veulent la contrôler, mais ils ont quand même clairement dit qu'ils envisageaient d'en acheter davantage. Puis c'est ce qu'ils font petit à petit, et qui se gardaient la possibilité de prendre un siège au conseil d'administration et donc de commencer à s'impliquer carrément dans la gestion de la société.
C'est ça qui est intéressant dans la façon dont c'est dit, c'est-à-dire qu'en fait, pour l'instant, Vivendi ne s'interdit pas la possibilité de complètement reprendre en main Ubisoft.
Ouais, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tout un tas de règles pour ce genre d'opération. Alors, je suis pas non plus un grand spécialiste hein, de la bourse et de tout ça, mais je sais qu'il y a notamment notamment une règle qui veut que quand on commence à prendre de grosses parts comme ça dans le capital qui permettent l'avenir de pouvoir prétendre à un siège au conseil d'administration, mm-hmm. il y a un délai de, je crois, 10 ou 15 jours pour dire clairement qu'on veut un conseil d'administration, sinon on pourra pas l'avoir derrière.
D'accord.
Donc c'est pour ça qu'ils ont dit ça, en fait. Ils ont dit qu'ils s'interdisaient pas, tout simplement pour pouvoir dire derrière, bah maintenant on en veut un. Mm. Mais s'ils avaient pas prévenu avant, ils auraient pas pu pouvoir obtenir un siège, quoi.
Donc à partir du moment où on devient un actionnaire qui commence à atteindre un certain nombre de parts dans une entreprise, il faut qu'on, en gros, il faut qu'on donne ses motivations, même si c'est plutôt flou. Il faut qu'on commence à dire, je suis intéressé, ou alors, non, c'est uniquement pour remplir un peu le chéquier de mémé, mais au-delà de ça, ça m'intéresse pas d'entrer, on va dire, au poste de décision.
Voilà, c'est par exemple pour prendre le cas d'Electronic Arts il y a quelques années qui pareil était rentré au capital d'Ubisoft
et
était devenu le premier actionnaire aussi d'Ubisoft à l'époque. Mm-hmm. Eux n'avaient pas fait cette démarche-là, ils n'avaient pas annoncé qu'ils voulaient un siège au conseil d'administration. Donc c'est là que ça montre quand même que c'est beaucoup plus agressif qu'à l'époque d'Electronic Arts, quoi.
Et l'autre question que j'aimerais poser, évidemment, parce qu'on parle de contrôle, on parle de gens qui sont aux manettes de la société, il y a des gens aux manettes de cette société, il y a Yves Guillemot. Comment est-ce qu'Ubisoft, qui est actuellement dirigé donc par Yves Guillemot, envisage cette approche de Vivendi? Est-ce que c'est une simple participation ou est-ce qu'il commence un petit peu à tirer la gueule?
Bah, dès le début, ils ont tiré à la gueule. Dès le début, ils ont tout de suite balancé un communiqué en expliquant que, qu'en gros, ils étaient pas contents, qu'ils voient ça comme une attaque et qu'ils vont tout faire pour que la situation ne continue pas. Enfin, et même s'inverse, quoi, parce qu'ils veulent rester indépendants, quoi. Et bon, après, enfin, quand on dit Ubisoft veut rester indépendant, c'est surtout les Guillemots qui veulent rester indépendants. c'est surtout ça dans l'histoire.
Ils veulent personne au-dessus de leur tête pour leur dire combien ils gagnent ou ce qu'ils font. C'est clair.
Ce qui peut se comprendre, c'est-à-dire que bon, je pense que ils sont riches, hein, les Guillemots, j'imagine. Yves Guillemot en particulier, c'est le fondateur d'Ubisoft. Il a monté cette boîte, il l'a fait grossir pendant 30 ans, et j'imagine que ça doit pas mal l'emmerder de se retrouver d'un seul coup avec quelqu'un au-dessus de sa tête, quoi.
Effectivement, ça fait un petit peu bizarre, mais pour autant, et j'en discutais, je vais donner la parole à JB, mais vraiment juste après, mais je veux juste continuer sur ces petites questions-là spécifiquement avec toi. On en discutait avec JB, je crois que c'était hier ou avant-hier, on est quand même dans une situation où les Guillemot, et spécifiquement Yves, mais la famille Guillemot en général, ne disposait clairement pas de la majorité des actions d'Ubisoft. Je m'abuse, ils ont des petites parts.
Non, ils avaient, ils étaient même moins que certains autres, en vérité.
Donc là, pas tant que ça.
Pas tant que ça.
Non, mais à 0,5% quand même. Mm-hmm.
Ah, tu veux dire à titre individuel?
Non, c'est-à-dire que Guillemot, la famille Guillemot, en fait, détenait 9,4% bon an mal an. Ouais. Le Bolloré arrive, il avait 6, puis 7, puis 1, puis tu connais le cheminement, hein, on l'a bien vu. De toute façon, mais l'action à un moment donné est assez basse. Hein, faut pas oublier qu'en 2014 n'a pas été forcément une très bonne année, un exercice assez faible. Donc on avait une action qui oscillait entre 12 et 15 euros, ben, tu vois. Et à ce moment-là, le père Bolloré, enfin Vivendi, hein, plutôt, acheté petit à petit, puis sans coup faire rire. Puis à un moment donné, sans le vouloir, on a eu 10, nous. Donc les autres ont 9,4. Mais il y en a d'autres, hein, parce qu'il y a des fonds d'investissement américains comme Fidelity Investment qui en ont 9,99%, c'est-à-dire qu'ils sont juste derrière Yardi et sont juste devant Guillemot. Donc quelque part, Guillemot, je pense que autant les autres, ils n'avaient pas vraiment d'agression plus que ça, c'est-à-dire qu'ils ont fait l'investissement, bon voilà, ça coûte tant de millions d'euros, puis ils se placent. Et c'est un investissement que la volonté de Vivendi, puisqu'il l'avait déjà eu avec Blizzard et Activision, on est bien d'accord, c'est pas du tout la même. Hein, c'est pas du tout les mêmes enjeux économiques derrière. Vivendi est une maison qui fait aussi beaucoup de divertissement, là où les autres non. C'est vraiment un investissement pur, quoi.
C'est probablement à ce titre-là, et c'est dans la démarche générale de Vincent Le Bolloré par rapport à d'autres sociétés, de vouloir faire de la synergie. C'est clair, et on y reviendra un petit peu plus tard. Mais donc sur la question des frères Guillemot, on est quand même dans une situation où ils ont l'air quand même un petit peu excités à se dire non mais attendez, indépendance, il va falloir faire gaffe. Et en même temps, ils étaient dans une situation où ils étaient clairement pas majoritaires, enfin ils étaient clairement pas, ils avaient pas 50% de leurs actions. Ça pouvait quand même arriver, c'était pas non plus ça sortait pas non plus de nulle part.
Oui, mais alors en fait c'est surtout ça, comme ça que j'avais interprété ta question avant, mais ouais, c'est assez courant en fait C'est-à-dire que, enfin, je vais prendre un exemple simple, c'est Nintendo, c'est ouais. pareil, Yamauchi, il avait 10% d'actions de Nintendo, c'est tout. Mmh. Et en même temps, ça a jamais posé de problème, parce que la situation était quand même très différente dans la mesure où, enfin, comme JB a raison de souligner que l'action d'Ubisoft n'était pas très très haute. Nintendo, c'est tout l'inverse, c'est une action qui est très chère. Qui a toujours été très cher parce que ils mettent pas énormément sur le marché. Mmh. Et surtout, enfin, la différence, c'est-à-dire que là aussi le cas particulier, c'est que c'est une société française qui attaque.
Oui.
Parce que dans le cas de Nintendo, par exemple, à l'époque quand Microsoft voulait se lancer avec la Xbox dans le jeu vidéo, ils envisageaient d'acheter Nintendo. Sauf que Yamauchi ne voulait pas vendre. Mmh. Et en fait, c'est-à-dire que tant que Yamauchi ne refusait de vendre, ils n'avaient pas trop de possibilités de faire une OPA agressive sur, enfin de faire un truc similaire, de faire un truc une OPA agressive sur Nintendo, parce que la moitié des actions de Nintendo sont détenues par des banques japonaises, par des institutions japonaises, et forcément, enfin, qui sont partenaires de Nintendo, qui sont des alliés de Nintendo et qui auraient, qui se seraient mis du côté de Nintendo pour affronter Microsoft, quoi, pour affronter toute société étrangère. Alors que là, dans le cas présent, on peut pas avoir de, enfin voilà, les Guillemots, ils pourront pas trouver un allié avec une banque française pour lutter contre Bolloré, surtout contre Bolloré, quoi, qui est pote avec toutes les banques, quoi.
On l'a vu encore récemment, oui.
Ou alors ils se mettent copains avec Fidelity Investment. Il y a aussi un autre investisseur américain qui en a presque 6%. C'est pas le Bok. Mais après, tu vois, c'est un peu le mariage de la carpe et du lapin, quoi. Je veux dire, l'autre il veut son indépendance, mais ça voudrait dire qu'il faudrait faire des packs avec des ultra financiers, des mecs qui disent ouais, nous on s'en fout, quoi, toi.
Et du coup, devenir dépendant d'un bilan d'une autre société qui va te forcer des objectifs ou des choses comme ça.
Mais de toute façon, tu peux imaginer que les autres, quoi qu'il en soit, ils surveillent malgré tout la rentabilité d'Ubisoft. Enfin, ils n'investissent pas non plus à perte.
C'est, c'est le principe d'un actionnariat, après.
C'est pas du mécène qu'ils font, c'est vraiment, ils placent des billes pour avoir, de toute façon, à la fin de l'exercice fiscal, des dividendes assez importants. T'investis pas 10% d'une boîte qui en pèse je sais pas combien de millions pour ne rien toucher. La chose étant, après, c'est là que c'est plus emmerdant pour Bolloré. Je sais pas ce qu'en pense Oscar, parce que on n'est pas dans les petits papiers de ce monsieur, on n'est pas dans les petits papiers de Vindy. Mais tu vois, le Vincent Bolloré, tout ce qu'il est, qui est un archimania de la finance et des affaires, je pense pas que ça soit personnellement, qui s'est dit tiens, un matin en se rasant, tiens, Ubisoft, il a une équipe, on en a parlé toi et moi il y a quelques jours, mais il a une équipe de fous furieux qui sont là certainement sur d'autres marchés tout ça, et qui quelque part on dit attends, si on augmente le capital, ça pourrait rapporter plus d'argent, on serait peut-être un peu plus décisionnaire. Mais bon an mal an, à cette échelle là économique, ils achètent Ubisoft, non, ils se placent dans Ubisoft comme ils se placeraient sur le marché de l'or, enfin de l'once, etc. Je sais pas moi, sur les minerais, que sais-je,
donc tu donnes beaucoup moins d'intention à Vincent Bolloré, à qui justement on en a donné beaucoup à cause de tout ce qui a secoué Canal Plus récemment.
Il a 100% de Canal Plus, le mec, de toute façon. Il a 100% de D8, il a 100% de D17, de iTélé, il a 100% de Canal+.
Donc à partir de là, il en fait ce qu'il en veut. En plus, c'est un média, donc c'est un enjeu très important.
Mais il ne faut pas oublier que, enfin, là, Canal+ appartient à Vivendi depuis un petit moment. Donc il y a déjà eu la première crise avec Messi, etc.
Ouais.
La chose étant, c'est qu'on en parle parce que c'est Bolloré, que Bolloré est copain avec Sarkozy et compagnie, évidemment, et que à ce moment-là, le mec travaillait, dit tiens, je vais placer des copains, j'en virerai d'autres. Et c'est à ce moment-là que ça a chié dans la colle, plus que le reste.
Plus qu'au moment où il y a simplement des investissements.
Ouais, si Bolloré avait dit ouais, très bien, bon ben voilà, on va continuer machin, on va peut-être fermer une issue, en ouvrir une autre, pourquoi pas. Bon tiens, le Dokkan ça fonctionne pas, on va le mettre à côté, parce qu'il est maintenu, le Dokkan, on va mettre la Birimbe, ben pourquoi pas. C'est à partir du moment où tu touches au guignol, tu touches au sacro-saint de l'historique de la chaîne, qu'évidemment ça commence à chier dans la colle. Et si vous disiez demain tiens, on va arrêter tout et pour tout Assassin's Creed, qui serait pas forcément une mauvaise idée en soi, mais mais ça pourrait être terriblement choquant. À ce moment-là, effectivement, tu vas avoir une levée de bouclier. Et mais pour l'instant, on n'y est pas du tout, quoi. Je veux dire, quand il est arrivé dans le capital d'Activision, c'est le mec qui a pris 50%, quoi. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes échelles. Il a fait la fusion avec Blizzard.
Précision qu'on parle bien de Vivendi et pas directement de Bolloré, parce que Bolloré a rejoint Vivendi après que Activision Blizzard ait racheté ses propres parts chez Vivendi et se soit barré en indépendant, justement.
Mais en fait, c'est que Vivendi a revendu 85% de ses actions. Qu'Activision n'avait
évidemment
pas trop le choix.
Mais Activision s'est porté à cœur et ils vont pas trop mal non plus. Enfin, ça reste Activision.
Ils ont acheté King à 6 milliards, donc ça peut aller, quoi. Ça peut aller.
Ils ont le shaky encore. Très bien. Quelque chose à rajouter là-dessus sur tout ce qui vient d'être dit maintenant, Oscar, ou
Oui. Alors, bah, oui. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on sait vraiment pas ce qu'il y a dans la tête de Bolloré par rapport à Ubisoft, parce que bah, finalement, il s'est encore jamais exprimé là-dessus, donc on ne connaît pas vraiment ses intentions, ce qu'il veut en faire, etc. Mm-hmm. Donc ça, c'est assez difficile de savoir. Moi, je pense quand même que c'est vraiment c'est pas au hasard s'il a pris Ubisoft. Je pense simplement que voilà, il veut une société de jeux vidéo et Ubisoft était le meilleur candidat pour ça, parce que c'était déjà c'est une société française, donc ça facilite les choses vu que Vivendi est un groupe français, et puis c'est un peu la seule grosse société de l'industrie actuellement qui est rachetable, quoi.
Ouais. Parce que les autres, alors juste pour qu'on explique pourquoi, du coup, parce que les autres sont simplement trop chers.
Ouais, Electronic Arts, c'est Activision, c'est ils sont beaucoup trop chers. Enfin, Vivendi a. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils avaient vendu Activision.
Et ça, c'est un sous-produit de la crise, en fait, finalement, que les autres soient trop chers, parce qu'ils restent debout que les plus gros.
Oui, effectivement. Bah, c'est-à-dire, bah, de toute façon, le bon exemple, c'est Eidos, par exemple, qui a été racheté par Square Enix, quoi. Mm-hmm. Enfin, il y a un peu tous les candidats ont tous été récupérés, quoi. Même récemment, King par Activision. Donc, non, il y a une énorme synergie depuis des années, hein, dans l'industrie du jeu vidéo, ce qui fait qu'il y a de moins en moins d'acteurs, à ce niveau-là. Et Ubisoft, c'est un peu le plus petit des gros, quoi. Donc c'est un peu le plus simple à racheter.
Pour faire une petite parenthèse, qui est une parenthèse à mon avis intéressante, là on parle d'un sujet qui a quand même extrêmement tourné économie. On a parlé pendant les 15 dernières minutes, voilà, de direction d'entreprise, d'actions, de pourcentage, de bénéfices, etc. JB, toi, tu n'es pas journaliste pour un site ou pour un média complètement dédié à l'écho. C'est même pas le cas pour un média généraliste comme par exemple le Figaro ou le Monde, qui parlerait quand même à un public qui soit vraiment calé là-dedans. Tu écris beaucoup pour des magazines, des médias vraiment complètement dédiés aux jeux vidéo. J'aimerais savoir, ce genre d'événement-là, ce genre de situation-là, comment est-ce qu'on leur donne un sens pour ensuite les mettre à un lecteur de sites de jeux vidéo? De quoi on parle, du coup? Parce que c'est quand même compliqué, c'est peut-être un petit peu abrupt de débarquer et de dire « Alors les enfants, voilà ce qui se passe en termes financiers, il y a les investisseurs machin, il y a les financiers trucs. Est-ce que dans ton traitement de l'actualité du jeu vidéo que tu fais par divers biais, comment est-ce que tu l'insères à un public qui n'est pas calé en économie ?
Alors, il y a deux choses. Déjà, fort heureusement, me concernant, je m'intéresse terriblement aux différents marchés financiers, mais ça, c'est, ça n'a rien à
c'est
voir.
C'est un intérêt personnel.
Non, mais c'est complètement, c'est assez étranger aux jeux vidéo, et c'est plus sympa, évidemment, quand ça s'en rapproche. Après, la question peut se poser par rapport à Oscar, parce qu'effectivement, mais toi, comment placer, un traitement économique dans un site de jeux vidéo. Donc c'est ce que fait Oscar, il le fait très bien. C'est ce que font des magazines comme The Game par exemple, où Oscar d'ailleurs participe. Encore une fois, tout va dépendre de ton lectorat quelque part. On est bien d'accord que quand Oscar fait des papiers économiques, etc., je ne connais pas moi l'âge moyen du lecteur de Gamecult, mais on va dire qu'elle est plus élevée que sur certains sites comme jeuxvideo.com. Tu peux être sûr et certain que effectivement, ça va être des gens plus dans des âges de 30-40 ans qui vont pouvoir s'intéresser à ce genre de documents que ceux qui participent au forum 15-25 de jeuxvideo.com, qui n'en a rien à cirer. Et hormis s'émouvoir de « Oh mon Dieu, Ubisoft se fait racheter !» Et c'est tout ce qu'ils entendent. Hein. Alors que c'est bien plus complexe que ça. Différentes strates, évidemment, pour l'expliquer. Voilà. Après, pour revenir par rapport à mon traitement, j'en ai pas vraiment parlé. Parce que j'en avais pas forcément envie, non pas par mes connaissances ou autre, parce que à la rigueur, tu compiles, puis tu fais autre chose et tu fais ta propre analyse. C'est juste que la volonté de The Player, c'est vraiment d'être un site un peu plus rentre dedans, assez sarcastique et satirique. Et voilà, c'est à la rigueur, c'est quand le Guillemot te dit, oh là là, on a fait le meilleur démarrage avec Watch Dogs de l'histoire de notre boîte. Là, je m'amuse, je me marre et je me dit, le monsieur veut vraiment rassurer sa base d'actionnaires, voilà. Et c'est plus un côté taquin, mais c'est ce que aussi les gens qui me suivent attendent de ma part. C'est voilà, tu vois, dire que Bolloré arrive dans Ubisoft, ouais, bon, bah, très bien, à la rigueur, je vais être très factuel et moi, ça m'intéresse pas ce boulot de quelqu'un comme Oscar qui lui aime ça et je te dis encore une fois, le retranscrit divinement bien. Que moi qui vais à la rigueur, ce soir on en parle parce que là j'ai une exposition et d'accord, parce que ça m'intéresse. Mais après, je pense que par rapport à mon propre électorat, non, je n'en vois pas véritablement la pertinence, quoi.
C'est un élément trop froid qui manque trop de déclarations pour pouvoir en faire quelque chose d'intéressant.
Voilà, il faudrait que Bolloré ou Guillemot surtout commence à faire des sorties, et dans les sorties de Guillemot qui se ratent. Et à partir du moment où il va se rater, là, je vais commencer à écrire quelque chose. Et d'accord, c'est normal. Mais après, c'est pour ça que je demande à Oscar, par rapport à son lectorat, il doit savoir si ses articles sont lus ou pas. Voilà, c'est comment toi, Oscar, donc, je fais une question dans la question.
Vas-y.
Comment toi, Oscar, ouais, effectivement, tu fais en sorte de vulgariser ce type d'information par rapport à un lectorat, alors on va dire qu'effectivement peut-être CSP moins plus et par rapport aux ados,
quoi. Qui est voilà, plus âgé mais qui n'est pas nécessairement plus calé.
Mais oui, parce qu'il y a quand même, on est bien d'accord que dans les gens qui sont plus âgés, il y a des gens qui s'en foutent royalement et qui veulent leur Call of Duty, leur Assassin's Creed annuel, et puis c'est tout, quoi. Et ça s'arrête là. Donc l'analyse, évidemment, elle est assez limitée, on est bien d'accord.
Effectivement. Donc Oscar.
Alors déjà, j'ai accès à très très peu d'informations sur les statistiques de Gamekult, puisque Yukishiro est quelqu'un de très secret là-dessus. Mais après, enfin, moi, je suis pas non plus, j'ai pas non plus fait d'économie, enfin, d'études en rapport avec l'économie ou des choses comme ça. C'est simplement que je me suis, sans que je puisse vraiment l'expliquer, passionné pour les chiffres de vente, pour le côté un peu business de toute l'industrie du jeu vidéo depuis que je suis très jeune. Donc j'ai simplement un bagage là-dessus et donc je suis pas non plus dans une approche. Moi je suis l'économiste qui va vous faire des exposés. Je suis plutôt le simple journaliste, mais qui s'intéresse énormément à ça et qui du coup essaye de vulgariser la chose. Mais je sais pas si je le fais bien ou pas, mais c'est une approche relativement simple pour moi, puisque moi-même je suis pas forcément super calé, quoi. Quand je lis un rapport financier, je comprends pas tout d'un coup, quoi.
Mais c'est justement peut-être parce que tu as parfois ce regard candide que tu peux l'expliquer.
Exactement.
Peux l'expliquer aux gens, c'est que tu l'expliques d'abord à toi-même pour ensuite l'expliquer aux autres.
C'est exactement ça.
D'accord. Parenthèse fermée. D'ailleurs, on va revenir au sujet avec un tweet de Edal qui dit sur Twitter: si tu cherches à rentrer dans le jeu vidéo, faut pas oublier qu'Ubisoft et Gameloft, parce qu'il faut pas oublier que Gameloft est évidemment aussi dans le lot, c'est une masse salariale énorme. Et c'est vrai aussi bien d'ailleurs en France que à d'autres endroits, comme par exemple, je dis ça parfaitement au hasard, au Canada, où il y a effectivement quelques personnes qui travaillent sur quelques jeux vidéo d'envergure. Donc c'est vrai que ça permet de commencer confortablement. Oui.
C'est même un point central, hein. Ubisoft, c'est pas juste qu'ils ont une énorme masse salariale, c'est que c'est carrément le plus gros employeur dans le domaine de l'industrie du jeu vidéo dans le monde, quoi.
D'accord.
Il y a aucune société qui a plus d'employés qu'eux.
Donc ça se chiffre en milliers?
Ils sont à quasiment 10 000 employés.
Okay. Oh, ok.
C'est assez conséquent, ouais.
C'est effectivement.
Ils sont au 31 mars, je crois qu'ils étaient à 9 700, quasiment 9 800. Puis là, vu que depuis ils ont encore fait des rachats, ils ont dû dépasser les 10 000, quoi.
C'est difficile de connaître leur intention, mais quand même, on en a parlé déjà un peu plus tôt, alors ça concerne aussi bien là aussi Ubisoft que Gameloft, mais les frères Guillemot dans tout ça, est-ce qu'ils risquent d'être poussés vers la sortie? Est-ce qu'ils risquent de partir d'eux-mêmes, justement parce qu'ils perdraient le contrôle à terme de leur société? Et est-ce que ça ferait une grande différence?
Il y a ce risque-là, mais enfin encore une fois, on connaît pas les intentions de Bolloré. Lui, de façon, Bolloré, il va pas non plus diriger directement Ubisoft si jamais il va jusqu'à racheter enfin si jamais il va jusqu'à en faire une filiale de Vivendi. Il a aucune expérience dans le jeu vidéo. Ouais. Donc il va de toute façon toujours falloir quelqu'un pour diriger Ubisoft. La logique voudrait qu'il laisse Guillemot et que simplement il lui donne des directives. Mais après on sait jamais, hein, ça se trouve il connaît quelqu'un qui a le profil, qui l'envisage déjà de placer. Enfin peut-être qu'effectivement il va virer Guillemot pour changer totalement la direction d'Ubisoft. Ouais. Mais c'est difficile à savoir, mais de toute façon, oui, je pense que les Guillemot doivent un peu flipper de se faire éjecter.
Oscar a raison, il y a deux solutions. La première, effectivement, les Guillemot restent en place, donc seront salariés, toucheront des dividendes par rapport à leurs actions, parce qu'à la rigueur, ils n'ont pas forcément d'intérêt à bouger leur portefeuille d'actions. Et c'est très bien, et puis voilà, et puis quelque part, ça bougera pas plus que ça, parce que comme l'a bien souligné le père Bolloré, il n'y connaît rien du tout, quoi, et c'est pas du tout son domaine. Lui, il veut quelqu'un qui tienne les rênes de quelque chose. Maintenant, c'est pas avec un capital à 10%, quand les autres en ont 9, quand d'autres en ont presque 10, et d'autres en ont presque 6, que ça se décide comme ça. Je veux dire, il aura peut-être une place au conseil d'administration, c'est très clair. Maintenant, les décisions, ça va pas se décider comme ça facilement. C'est l'autre, on va dire, attendez, les mecs, on voit bien, mais... Wow.
Il faut quelqu'un qui connaisse bien la boîte.
Mais voilà, et donc il est pas encore en place, le mec. C'est ça qu'il faut voir. C'est qu'il a pas suffisamment aujourd'hui d'action, sauf si du jour au lendemain il augmente son capital de 20%, là il passe à 30, ça changerait véritablement la donne. À ce moment-là, c'est déterminant. Soit il se stabilise à 10-12%. Concrètement, Guillemot ne bouge pas, personne ne bouge, la boîte continue son petit bonhomme de chemin et ça marche.
L'idée, c'est ce qui peut être plus gros que plusieurs actionnaires en même temps.
Voilà. Soit d'un coup d'un seul, il dit voilà, je m'impose et je prends 40% du conseil. Et là, le conseil d'administration, ça change tout. À ce moment-là, il a de fortes chances que les frères Guillemot se cassent parce qu'on va les pousser gentiment par la suite. La deuxième théorie, c'est que de toute façon, tout est déjà fait. Et que la paire, enfin, ils sont, parce qu'à la base, c'était créé par 5 frères, je crois qu'ils sont plus que 2 dans l'histoire. Mais que.
En gros, ici, si tu cumules Ubisoft et Gameloft, ouais.
Alors, là, voilà. Par contre, dans le conseil d'administration, t'as 6 ou 7 Guillemot.
Ah, ok, donc, oui, voilà.
Ouais, mais après, t'as que Guillemot et le patron, mais voilà, dans le conseil d'administration, il y a quasiment toute la famille.
Voilà, toute la famille.
T'as le Schtroumpf à lunettes, t'as le Schtroumpf au mauvais accent anglais, t'as le Schtroumpf, ok.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, ou alors, c'est des choses qu'on ne maîtrise absolument pas, d'accord, et le chèque il est déjà fait, et qu'on va leur dire, voilà, vous partez, vous gardez vos 9%, 10%, parce que de toute façon, ça vous rapportera quand même quelque chose en plus de votre gentil chèque, et fermez votre gueule, quoi. Et ça peut aussi se terminer comme ça, c'est-à-dire si les mecs veulent aligner, ils aligneront. La chose après que je me pose, toujours dans ce genre de situation, c'est... Je sais pas que je n'ai pas confiance en l'honnêteté de ce brave Guillemot, mais je me dis quand même, t'es dans une boîte qui est quand même soumise à un rachat potentiel. Tu n'assures pas tes arrières. En gros, tu es déjà quasiment minoritaire par rapport à d'autres actionnaires qui avaient été déjà dans ta boîte, qui te bronchaient pas plus que ça. À un moment donné, enfin, je veux dire, le mec, il est quand même avec une armée de financiers. Il y a pas un gars qui lui dit, ouais, Yves, prenez 15, parce que on sait. Non, ben on y va comme ça. Et je me dis quelque part, alors c'est terrible ce que je vais énoncer, hein, que peut-être que voilà, tout était plus ou moins fait. Ah ben de toute façon, un jour on sera racheté. Le jour où je me ferai racheter, eh ben voilà.
Et peut-être qu'il veut se casser et en tirer le plus de thunes possible. C'est ça que tu dis?
Je sais pas si j'en sais rien, mais possiblement à partir du moment où tu as une OPA, puisque c'est une OPA qui se fait là aujourd'hui, et à ce moment-là, la seule posture qu'il puisse avoir, c'est de dire scandaleux. agression, je sais plus, il a des mots très très forts.
Oui.
Voilà, et oui, Bolloré se comporte avec tout comme un activiste, c'est vraiment ses propos, tu vois. Ah ah,
nous comme un sale gauchiste.
Salaud, machin, etc. Bref, le petit gars qui vient du village d'Armorique d'Astérix, quoi, qui reste putain de rebelle par rapport à l'Empire romain, quoi. Et évidemment, je veux dire, mais n'importe qui, de toute façon, avant de céder par l'argent à lécher, dira je se passerai comme ça pour partir, et ce sera pas une première, je veux dire, il y en a tellement eu d'autres avant lui, il y en aura tellement d'autres après lui, donc on n'en sait rien. Je ne dis pas que ça se passera comme ça, attention, entendons-nous bien, je me dis c'est possiblement une hypothèse, j'en sais rien. Faut pas non plus l'exclure, parce que encore une fois, on est dans des strates et des sphères qui nous dépassent totalement, quoi. Donc
très bien. Oui, vas-y, tu voulais dire. Non. Ok, très bien. Je suis désolé, je voulais pas t'interrompre. Je pensais simplement que t'avais terminé ta phrase.
Je pensais que tu.
C'est parfait.
La parole aussi.
Eh bien, c'est une transition complètement loupée, mais je vais la faire quand même. la dernière question que je voulais poser avant de partir à la pause musicale, c'est quand même de savoir de manière générale, niveau thune, comment se porte Ubisoft, et grossièrement encore. Hein, là, je te demande justement pas. Je sais que tu n'as pas forcément les chiffres à la virgule près, mais comment se porte Ubisoft en gros? On a déjà dit tout à l'heure que les actions étaient à un prix plutôt bas avant. En tout cas avant que le rachat commence un petit peu, et en même temps comment se portent les grandes séries, est-ce qu'on est vers une fin de règne pour les plus grosses licences, ou est-ce que ça fonctionne encore bien?
On est un peu en une période de fin de règne, là il y a Assassin's Creed qui tire pas mal la gueule.
Ok.
Just Dance qui est quasiment mort. Enfin, ils tentent de relancer le truc avec leur service de streaming, mais bon, leur gros problème avec Just Dance, c'est que la Wii, la Wii est obsolète et la Wii U n'a pas pris le relais.
Donc, et les autres supports sont pas taillés pour ça.
Voilà, c'est même pas qu'ils sont pas taillés pour ça, c'est qu'ils ont pas le public, ils ont pas ce public-là, quoi. Enfin, le public typique de Just Dance, il était sur Wii, il est sur aucune autre console, quoi. Il est sur smartphone maintenant.
Et donc, il joue à autre chose. Il a arrêté de danser, en fait.
Ouais. Et puis donc, Just Dance, c'est la fin. Après Watch Dogs a bien marché, Far Cry marche bien.
Mm-hmm.
Ubisoft globalement, ça se porte plutôt bien, mais c'est pas non plus, c'est-à-dire que j'en reviens au fait qu'ils ont un effectif complètement dingue. Mm-hmm. C'est une situation assez risquée, c'est-à-dire que du coup ils ont des coûts qui sont très élevés.
Oui, chaque production de nouveaux jeux devient vite risquée, donc choix doit être pris avec prudence.
Voilà, et c'est pour ça en même temps qu'ils sont dans ce délire de dire ouais on sort un Assassin's Creed tous les ans, parce que avec cette masse salariale là, de toute façon on est obligé, quoi. donc c'est là où ils sont dans une situation un peu risquée, et du coup ils ont vraiment besoin d'avoir des grosses licences pour pouvoir payer tout ce monde là, quoi. Donc ça, l'entreprise va bien, mais c'est pas la grande joie. Ils sont, ils ont fait des bénéfices l'année dernière. Là en ce moment ils font des pertes. En même temps là c'est juste sur les 6 premiers mois où ils avaient que dalle, donc c'est un peu logique qu'ils fassent des pertes. C'est un peu limite. C'est pas terrible. Ils sont pas non plus vraiment dans le rouge, mais ils sont pas non plus vraiment dans le vert non plus, quoi.
L'exercice Oscar par rapport aux années précédentes, on est bien d'accord qu'il est quand même moindre.
Ah ouais, mais de toute façon là sur les 6 premiers mois,
même l'an dernier, sur les 2 dernières années même.
Ouais, mais ce que je veux dire c'est que l'année dernière ils avaient Watch Dogs dans la période. Donc forcément là vu que sur leur début d'année fiscale en cours, ils avaient rien, forcément c'est ça plonge totalement, donc faudra voir ce que ça donnera sur l'année complète. Mais
début de l'année fiscale en précis, c'était mars, donc
c'est mars, avril. Ça commence en avril. Ça se termine en mars,
31 mars.
Mais l'année dernière c'est leur année record, mais en même temps l'année dernière ils avaient le cumul de Watch Dogs, d'Assassin's Creed et de Far Cry, et puis sachant que Assassin's Creed donc Unity s'en était bien sorti grâce au partenariat avec Microsoft, qui fait que le jeu était inclus enfin il y avait un bundle avec Assassin's Creed et c'était voilà avec la Xbox One et c'était la principale offre de Microsoft sur la fin d'année, c'était enfin en gros, tu avais la Xbox One nue à $400 aux États-Unis et tu avais la Xbox One avec les deux Assassin's Creed à $350. Donc ce pack là s'est énormément vendu et c'est grâce à ça que Unity au final c'est bien vendu, c'est mais uniquement grâce à ce pack là. Parce que sinon les ventes se cassent la gueule et du coup c'est pour ça que cette année est plus délicate et que leur futur est un peu plus délicat, donc ça va beaucoup reposer sur est-ce qu'ils vont réussir à relancer Assassin's Creed et puis est-ce qu'ils vont réussir à imposer leur nouvelle tentative comme le nouveau Rainbow Six pour se créer de nouvelles séries fortes.
Très bien, on parlait des gens qui jouaient à Just Dance qui sont partis sur le mobile. Gameloft, du coup, ça se porte bien ?
Non, alors Gameloft,
ça existe, Gameloft ? Ça existait un jour, ce club ?
Non, Gameloft, ça se porte très très mal.
D'accord.
Moi, alors, Gameloft, moi j'ai une théorie par rapport à Gameloft. Je pense que, en fait, Vivendi récupère aussi Gameloft enfin, je pense qu'en fait, ils s'en foutent de Gameloft, mais qu'ils le font parce que voilà, la société coûte que dalle, elle se porte tellement mal, elle est quand même, on n'est pas au bord de la faillite, mais ça se dirige vers la faillite quand même. Et je pense qu'ils le rachètent pour pouvoir négocier avec les Guillemots en leur disant, ouais, regardez, si vous voulez, vous nous laissez récupérer, vous nous laissez prendre le contrôle d'Ubisoft et on fait fusionner avec Gameloft. Et vu que Gameloft, vous saviez pas quoi en faire, c'était en train de partir en couille, bah hop, on sauve le peu qu'il en reste, quoi.
D'accord, très bien.
Mais c'est juste une théorie.
Non, mais ça nous permet d'avoir déjà une certaine perspective déjà factuelle sur les chiffres et puis évidemment aussi peut-être une idée de l'intention derrière, même si effectivement tu viens de le dire, ça ne reste qu'une théorie. On va se faire une pause musicale de 2 petites minutes, un morceau repris de Sonic 2, donc ça va être chouette, hein. Le morceau s'appelle Gambling Nights, donc je vous laisse deviner un peu dans quel univers ça se passe. On se retrouve donc dans 2 minutes 30 pour parler d'un aspect un peu plus créatif des jeux en tant que tel chez Ubisoft, qui est l'avenir pour la création chez Ubisoft. On en parle juste après, donc Gambling Nights, tout de suite dans le Player Club. Et nous sommes de retour dans le Player Club jusqu'à 22h, voire même un petit peu plus. On va peut-être déborder, mais ce n'est pas grave. Personne n'attend sur nous, nous sommes libres. Nous pouvons continuer sur Internet jusqu'à au moins la durée maximale du module de direct qu'on utilise ce soir. On va donc continuer avec Ubisoft et un aspect un petit peu plus créatif. Laissez-moi, chers invités, qui je le rappelle sont ce soir GB et Oscar Lemaire, laissez-moi donc vous égrener un petit peu les jeux Ubisoft pour la fin de l'année, histoire de voir un petit peu ce qu'il y a dans le catalogue d'Ubisoft pour les fêtes. Donc tu en avais déjà parlé juste avant la pause musicale, Oscar, je crois. Il y a évidemment Tom Clancy's Rainbow Six Siege, dont les publicités sont tombées à point nommé par rapport aux attentats de la semaine dernière.
C'est très bien.
Just Dance 2016, dont on a aussi discuté, dont une version Wii, faut-il le rappeler, où d'ailleurs, dans la plupart des magasins dans lesquels je l'ai vu, il y a plus d'exemplaires Wii que d'exemplaires Wii U.
Ça reste la version qui se vend le mieux.
Ça reste la version qui se vend le mieux, et c'est dingue de dire ça, mais effectivement, il y a un parc installé tellement grand que ça fait sens au final. Assassin's Creed Syndicate, qui est plus ou moins sorti pour les fêtes. Anno 2205. Donc voilà, c'est 1, 2, 3, 4 grands jeux en gros sortis vers la fin de l'année, plus ou moins pour la période des fêtes, plus ou moins. Qu'est-ce que vous pensez de ce catalogue là? Qu'est-ce que ça dit d'Ubisoft, ce retour donc de Rainbow Six, ce Assassin's Creed qui fait clairement pas l'unanimité, notamment chez Gamekult, et un Just Dance et un Anno? Qu'est-ce que ça dit d'Ubisoft pour vous?
Ouais, vas-y, Oscar, ouvre la danse, je te
Ouais, non, c'est rien de particulier non plus. Enfin, Assassin's Creed, Just Dance, de toute façon, ça, on les a chaque année. Ouais. Anno, on en a un de temps en temps. Et puis, Rainbow Six, c'est un peu le projet le plus intéressant de cette année, puisque c'est une sorte de reboot, quoi. C'est pas vraiment un reboot, mais disons que c'est une série qui se renouvelle davantage, par exemple, que Assassin's Creed. Et ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas eu. Ça fait un petit moment qu'ils travaillent là-dessus et puis qu'ils tentent de faire un truc assez nouveau, quoi. Donc, ça va être assez intéressant de voir ce que ça va donner.
Ouais.
Je suis très curieux de voir ce que ça va donner, aussi bien d'un point de vue des critiques que des ventes.
Juste pour donc résumer un petit peu et peut-être caricaturer, je ne sais pas, mais en tout cas, ce que tu nous dis là, donc c'est qu'à l'exception de Rainbow Six Siege, on est dans quelque chose de parfaitement classique, quelque chose qu'on a vu d'année en année, du Just Dance, du Assassin's Creed, du Anno qui repop de temps en temps. C'est plutôt la surprise, entre gros guillemets, hein, la surprise Rainbow Six qui peut apporter quelque chose d'un peu plus riche au catalogue d'Ubisoft pour la période, c'est ça.
Oui, après, enfin, ça c'est un parallèle qu'on peut faire avec tous les éditeurs. Hein.
Oui, bien sûr, non, mais voilà.
Je veux dire, Rainbow Six, c'est un peu l'exception cette année, mais ils ont quand même régulièrement. Enfin, Ubisoft, c'est quand même une société qui tente des nouvelles licences. Enfin, ils ont fait Watch Dogs il y a pas longtemps, puis ouais. Ils tentent aussi des reboots, quoi. Par exemple, il y a le prochain Ghost Recon, c'est pareil, ça n'a rien à voir avec les épisodes précédents. Il y a quand même régulièrement, enfin on peut citer aussi les d'autres jeux à venir comme For Honor, il y a quand même régulièrement des nouvelles tentatives d'imposer de nouvelles séries.
On va y venir. Sur ce catalogue pour les fêtes, JB, tu voulais réagir?
Ah, c'est une grande tristesse. C'est une très grande tristesse, je veux dire Ouais, c'est vraiment moche, quoi. Enfin, toi, c'est effectivement, pourquoi pas. Enfin, je suis pas du tout adepte de la série, mais pourquoi pas, parce qu'effectivement, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un Rainbow Six, donc pourquoi pas. Mm-hmm. Maintenant, voilà, Just Dance, je comprends même pas l'intérêt du truc encore de sortir des jeux pareils. Mm-hmm. Enfin, si le seul intérêt, c'est que économiquement parlant, c'est que ça coûte rien à faire. Voilà, donc pour eux, ça peut être un peu bonus. Il n'y a aucune perte là-dessus. Sur Assassin's Creed, je pense qu'il faut vraiment se poser de très bonnes questions, parce que ça fait quand même le 8e épisode, je crois, enfin dans la série dite classique, hein, dans le canon d'Assassin's Creed, hein, je compte pas les épisodes périphériques. Faut vraiment arrêter, parce que voilà, je connais beaucoup de personnes qui suivaient la série depuis le début, qui ont arrêté après Black Flag. Ils veulent même plus entendre parler de la série depuis Black Flag, pour te dire qu'ils en ont ras-le-bol. Et puis et chaque année, c'est toujours la même chose. Tout le monde se plaint. Et voilà. Et bon, reste nous. C'est un peu particulier, quoi. Je veux dire, ça fera jamais des ventes records à nous, quoi qu'il en soit. C'est bien que ça existe, encore une fois, mais je trouve ce catalogue, je veux dire, pour un éditeur qui est censé donner un peu de rêve à ces joueurs, ça fait franchement pas envie, quoi. Enfin, c'est, je trouve ça désastreux. Mais c'est à l'image, comme l'a dit Oscar, hein, de toute façon, de d'autres éditeurs hein, et développeurs. Les mecs savent plus se renouveler, n'osent plus tenter quoi que ce soit.
Parce que les budgets sont trop gros, parce que c'est trop risqué de vouloir lancer quelque chose d'autre.
Évidemment, mais évidemment, pour Assassin's Creed par exemple, on savait bon an mal an que pour amortir le premier, il fallait obligatoirement sortir 3. Donc là, ça allait arriver jusqu'au Brotherhood en gros. Et à ce moment-là, t'arrivais à équilibre et tu pouvais continuer à en sortir. Mais parce qu'on est sur des budgets terriblement conséquents et que la moindre erreur maintenant, quand même t'appelles Ubisoft, peut être synonyme de péril financier, quoi. Donc, faut y aller tout doucement, marcher tranquillement, finalement.
Faire des jeux aussi comme Watch Dogs, qui ont quand même été. Watch Dogs a quand même été beaucoup comparé à ce qui se faisait notamment avec Assassin's Creed. On a quand même dit,
tout le monde a cru que ça pouvait être l'Assassin's Creed de nouvelle génération, quoi.
Voilà. Et d'autre part, on a aussi dit d'Assassin's Creed qui avait quand même un peu de parenté avec Prince of Persia. Donc.
Oui,
d'une certaine manière, parce que là le lien il est moins évident, je suis tout à fait d'accord, mais il y a quand même cette volonté chez eux et chez d'autres éditeurs, nul doute derrière ça évidemment, mais d'essayer en même temps de faire quelque chose de nouveau et en même temps de resservir parfois le même gameplay, parfois le même genre d'univers, parfois de rester en terrain connu.
Mais tout le monde n'a pas le génie de Rockstar, quoi, quelque part. C'est les mecs, ils te font un GTA, puis les gars de Rockstar l'ont annoncé il y a peu de temps. On n'a aucun intérêt, nous, d'en sortir un annuel. Enfin, sinon, on fait de la merde. Clairement, ils ont dit que si on en fait de manière annuelle, on le rate, on fera de la daube.
Et ça, c'est ce qui les autorise à faire plusieurs fois le même jeu, en fait. C'est cette liberté de pouvoir attendre.
Déjà, d'une part, de pouvoir le peaufiner, de pouvoir bien le réaliser, parce qu'effectivement, le GTA V est malgré tout très bien. On est bien d'accord, ça révolutionne pas la roue, mais voilà,
ça reste des petits trucs. C'est un avis personnel, mais c'est un excellent jeu, à mon avis.
C'est un excellent jeu, tu vois. J'avais pas forcément apprécié le 4, le 5, j'ai retrouvé du San Andreas que j'aimais tant, tu as trois personnages, et puis il y a, évidemment, c'est toujours les mêmes trucs, quoi. Les casses à la con et tout ça. Et, évidemment, ça n'a pas évolué d'un iota. Depuis à la rigueur la version PlayStation vue dessus, quoi. Mais il n'empêche, c'est à dire que le jeu est toujours dans une attente, donc si demain ils te disent GTA 6 ce sera à Tokyo, tu peux être sûr que j'aimerais moi d'ailleurs tu peux être sûr que tout le monde va avoir un arrêt cardiaque pendant 5 secondes, qu'est-ce qu'ils ont dit, mais c'est pour quand, oulala les mecs, 2020. Et
j'ai entendu Oscar tout sauter tout à l'heure, je pense que tu as des vues peut-être différentes ou complémentaires de celles de JB.
Non, plutôt complémentaire. Non, c'est juste pour souligner que oui, sur le fait que en fait Ubisoft est c'est pas beaucoup spécialisé dans les open world ces dernières années, quoi. Et que effectivement, enfin le problème par rapport à ça, c'est que surtout en tout cas avec Assassin's Creed, c'est le rythme annuel qui pour un open world n'est vraiment pas l'idéal. Là il y avait un truc intéressant dans leur dernier résultat financier, c'était ce moment où ils se comparaient avec tous les autres éditeurs. Dans leur présentation de leur résultat financier, ils insistent vraiment sur l'open world vu que c'est l'essentiel de leur catalogue, quoi. Far Cry, Assassin's Creed, Watch Dogs, c'est tous des open world. Et donc voilà, il se place en spécialiste de open world, il se comparait avec les autres éditeurs et il soulignait le fait que les autres éditeurs, il y avait des décalages de minimum 2 ans, souvent 3-4 voire 5 ans entre chaque épisode, alors que ils en font plein chaque année. C'était présenté comme d'une qualité, et pour moi c'est le problème d'Ubisoft, quoi. C'est effectivement le fait que Assassin's Creed le fait qu'il y en ait un par an, même si c'est des équipes différentes qui s'en occupent, même 2 ans de développement, c'est beaucoup trop court pour un open world, quoi. Surtout un open world de cette ambition, quoi. Et effectivement, j'étais à 5, ils ont mis entre 4 et 5 ans pour le développer, et c'est pas pour rien.
Tout à fait. Je vais juste vous citer maintenant les jeux qui sont prévus pour le début de l'année prochaine, parce que justement sur ce problème de d'Ubisoft qui prend des risques à chaque fois et qui risque de perdre de l'argent en se plantant, en faisant une petite erreur. Pour le début de l'année prochaine, évidemment, on n'est pas sur les mêmes enjeux, on sort pas des jeux pour un même, pas forcément pour un même public, ou en tout cas pour un même timing de vente, on vend pas forcément les mêmes choses, pas forcément des blockbusters comme Assassin's Creed, en tout cas ceux qui sont voulus comme tels. Pour l'année prochaine, donc, d'annoncer, on a Far Cry Primal, on a For Honor, on a South Park The Fractured But Whole, Tom Clancy's The Division, fameux running gag, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Pour vous, je pose cette question-là, hein. Spécifiquement.
Il y a pas de date pour le Ghost Recon.
Il y a pas de, c'est pas nécessairement 2016, donc.
Non. D'accord. À l'E3, il refusait vraiment de donner une date en mode, même nous, on la connaît pas, quoi.
Merci de me corriger, parce que j'ai mal interprété un To Be Announced. Ouais. Okay.
Non, parce que ça m'étonnerait vraiment que ça sorte en 2016, quoi.
Ok, désolé. Pour vous, my bad sur ce côté-là, mais, pour vous, bah, c'est bien, parce que la suite de ma question ne s'appuyait pas du tout sur ces jeux-là, sur ce jeu-là. South Park et For Honor, qui dénotent quand même un peu des licences et des types de jeux listés jusque-là, dont notamment l'open world, notamment Far Cry, Assassin's Creed, etc., etc. Est-ce que ça va dans le bon sens pour pouvoir essayer d'assurer une transition après cette fin de règne? Parce que South Park, c'est quand même quelque chose de reconnu. For Honor, ça a quand même de la gueule. Est-ce que pour vous, c'est une, j'ai pas envie de dire porte de sortie, mais enfin, est-ce que c'est une bonne façon de faire transition, ou est-ce que c'est des trop petits jeux qui arrivent là pour pouvoir vraiment aider Ubisoft à s'appuyer, à avoir une assise le temps que ce soit nécessaire?
Il y en a qui vont potentiellement le pénaliser. Enfin, Far Cry Primal, ouais. On a bien vu dans les deux précédents Far Cry que l'aspect survie, très clairement, et crafting était très développé. Donc, c'était des brouillons pour Primal. Maintenant, on parle de FPS, et on est bien d'accord que si tu sors un FPS où il n'y a pas de terroristes, où il n'y a pas de méchants nazis, où il n'y a pas de méchants communistes, sans une putain d'armée américaine, donc avec des putains de guns, généralement, ça a du mal. Je veux dire, j'ai pas les chiffres, mais Oscar pourrait potentiellement nous les rappeler, mais si on prend Bioshock, Dishonored, peut-être Rage, qui est encore, même pas sûr, tu vois, à partir du moment où tu sors de ce contexte-là, FPS, c'est vraiment délicat. Là, tu te dis, mec, regarde, c'est super bien, c'est se passe à la préhistoire, t'as un homme qui veut s'en sortir, patati patata, il y aura des mammouths, que sais-je, machin, il y aura des dedans. Waouh, en fait, c'est une simulation de Raon, le fils des âges farouches, quoi. Pas convaincu que ça puisse plaire, tu vois. Et à la rigueur, moi qui suis pas du tout FPS, ça peut m'arrêter, tu vois, parce que le Blood Dragon de Far Cry, qui est juste un spin-off, mais qui est juste brillant pour le coup, qui est totalement déconnant, effectivement, c'est un jeu qui est très plaisant, mais qui n'a pas coûté grand-chose à produire, parce que voilà, c'est juste, ils ont fait un skin sur le Far Cry, et puis c'était fini, quoi. La Primal, on part vraiment sur autre chose, quoi. Il y a une autre idée de développement. Je suis pas convaincu que Far Cry Primal, comme For Honor, que tu trouves effectivement intéressant visuellement. Moi, j'arrive pas trop à comprendre ce qu'est-ce que c'est comme jeu. On dirait vraiment du Bloodborne et tout ça. Voilà. Je sais pas, toi, c'est... Il y a beaucoup de trucs comme les Tom Clancy's, ben, à un moment donné, ouais, mais c'est... Tu sors un Siege et puis d'un coup, hop, tiens, t'en as deux autres à la suite, là. Je sais pas, quoi. Enfin, il y a... Il y a une volonté, effectivement, pour ces jeux-là. Maintenant, est-ce que ça va pouvoir vraiment aider la transition? Je sais pas. C'est pas, enfin, on est quand même sur des jeux qui, à majorité, sont tous super tristes quelque part, tu vois. C'est ou sordide pour les Tom Clancy's. Reste South Park qui va être l'amusement, le truc vraiment trop sympa, parce que trop con, quoi, et très coloré. Il n'y en a qu'un seul, c'est lui. Mais Stick of Truth avait plutôt pas mal fonctionné, parce que c'était un bon jeu.
Qui n'était pas développé par le même studio qui fera Fracture Butthole, pour le coup, hein.
Ouais, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, l'idée est là quand même.
L'idée est là quand même, et il y a Matt Stone et Trey Parker derrière, donc voilà, chance d'être bon, en tout cas au niveau de l'écriture.
Parce que le précédent, enfin, était bien, quoi, donc c'était plutôt très sympa à faire. Maintenant, je te dis, voilà, Far Cry Primal, For Honor, j'ai un énorme doute. Quant à The Division, qui est attendu, mais bon, voilà, ça devient, comme tu dis, le running gag. C'est vraiment pas, quoi. La transition, je pense pas qu'elle se fera avec ce type de jeu. C'est pas possible.
Je vais accélérer un petit peu la marche. Je vais poser une question qui me concerne beaucoup, hein, qui traite d'une licence que j'aime beaucoup. Mais voilà, pas de chance, vous êtes dans le Player Club et c'est moi qui présente et qui prépare l'émission. Rayman fait partie des personnages les plus emblématiques d'Ubisoft d'une manière ou d'une autre, qu'il le veuille ou non. Un nouveau retour de Rayman est-il souhaitable ou imaginable? Sachant qu'un nouvel épisode de Runner Free to Play. Alors attention, j'aimerais me servir d'ailleurs de cette question pour pouvoir passer un petit coup de gueule comme à l'ancienne. Ils se défendent du fait que c'est un platformer. Non, c'est un runner dans lequel tu choisis la direction dans laquelle tu cours. Il y a une nuance. C'est quand faut pas déconner non plus. Donc un runner free to play est sorti sur Apple TV au tout nom de Rayman Adventures. Mais en termes de vente, est-ce que les épisodes précédents Origins et Legends justifieraient un vrai nouveau Rayman? Est-ce que c'est le bon moment pour proposer un nouveau jeu de plateforme 2D ou 3D? Est-ce qu'un retour de Rayman, on va pas parler de l'intention d'Ubisoft, mais en tout cas, est-ce que ça pourrait faire sens ou est-ce que c'est risqué? Je pose notamment la question à Oscar qui se démute. Voilà.
Bah, moi, je pense que il ferait bien d'attendre un peu encore.
Le lancement d'une nouvelle console éventuellement?
Pas forcément. Hein, pas, je pense surtout que je pense que la génération PS4, Xbox One est partie pour bien durer.
Mm-hmm. Moi, je pensais à la NX. Je pensais au prix de Nintendo. Après, à la NX.
La NX, oui, c'est possible. En fait, non, mais alors ça, c'est un avis très personnel.
Vas-y.
C'est-à-dire que j'ai été un poil déçu par Rayman Legends qui j'ai beaucoup aimé Origins.
Qui mettait la barre plus bas.
Je dirais pas qu'il mettait la barre plus bas, mais je dirais que il y avait des trucs un peu mal gérés. En fait, c'est surtout que sur la partie classique, ça mettait, je trouve, en évidence le fait que c'est quand même un gameplay relativement limité pour un jeu de plateforme. Et que ça pose un peu de problème au jeu et
les situations devenaient répétitives.
Voilà, c'est ça, et que du coup même si enfin il y a 15 000 trucs qui sont vachement bien, enfin la direction artistique est somptueuse, la musique est géniale, il y a des très bonnes idées comme les niveaux musicaux et tout, mais globalement je trouve que ça se répète et à titre personnel, j'attends pas vraiment un troisième Rayman dans cette formule-là. Je pense qu'il ferait mieux d'attendre un peu encore avant d'essayer de relancer. Mais j'espère qu'on aura de toute façon un nouveau truc. Ou alors il pourrait peut-être tenter un nouvel épisode en 3D. Mais la série se porte pas super bien, mais elle se porte pas super mal non plus. Hein.
Ouais.
Je pense qu'on reverra des Rayman et je pense qu'ils n'ont pas forcément intérêt à se presser, qu'ils peuvent prendre leur temps pour essayer de trouver un bon truc, quoi.
En cherchant le bon public, la bonne plateforme, le bon moment pour pouvoir le faire.
Ou le bon concept, tout simplement.
Ou le bon concept, exactement, et peut-être revenir à la 3D pour être une solution intéressante, tenter de nouveaux trucs dans ce domaine-là.
Pourquoi pas.
Michel Ancel partage son temps entre Ubi Montpellier et un studio indé où il développe Wild. Est-ce que c'est pas regrettable pour Ubisoft qu'une de ses têtes les plus connues participe à un projet extérieur? Est-ce que ça aurait pas pu se faire à l'intérieur d'Ubisoft, ça?
Ça souffre.
Non, mais c'est
fou.
Techniquement, ça aurait pu se faire à l'intérieur d'Ubisoft. Et à mon avis, si ça s'est pas fait à l'intérieur d'Ubisoft, c'est simplement qu'Ubisoft a pas voulu
c'est trop risqué.
Et que c'est pour ça, c'est pour ça qu'il est parti en indépendant, quoi.
Bon.
Et enfin, tout en restant effectivement toujours chez Ubisoft, ce qui d'un côté est rassurant parce que
Ça signifie qu'il a encore la main dans les licences qu'il a créées là-bas.
Oui, et puis c'est surtout à mon avis si maintenant que Ancel a créé son studio de développement et qu'il a un financement par Sony pour son jeu, si malgré tout il préfère rester, j'imagine, à mi-temps chez Ubisoft, c'est que derrière Ubisoft doit quand même toujours lui proposer des trucs intéressants et qu'il y a peut-être toujours un espoir d'avoir un nouveau Beyond Good and Evil.
Ah.
Je suis de nature optimiste.
On en revient ici. Bah, ça tombe bien parce que la question suivante que j'avais posée, c'était quelle licence voudriez-vous voir revenir. On a compris pour Oscar, c'était donc BGE,
bah,
n'est-ce pas?
Évidemment, voilà. Évidemment. De toute façon, ça, c'est, ça. Tout
mais alors, j'aimerais quand même name dropper.
Vas-y.
Vite fait, 13.
Ah.
Le FPS en cel shading qui m'avait beaucoup plu parce que j'aime bien le fait de les BD.
Il faudra encore avoir les droits pour le coup, mais ça doit se mener.
Oui, c'est pas compliqué à récupérer les droits, je pense. C'est pas des droits qui doivent coûter très cher.
Et pour pour toi, JB, une licence Ubisoft que tu aimerais voir revenir. Alors, de manière très provocatrice, j'ai écrit Prince of Persia, Driver, Watch Dogs. Autre chose.
De toute façon, ouais, Beyond Good and Evil. Rayman, malgré tout.
Rayman,
Alors, moi, je rejoins l'avis d'Oscar. Legends m'avait un peu déçu, mais je crois que les deux étaient beaucoup trop proches au niveau de leur sortie, quoi. Legends était en fait une sorte de reboot HD de Legends, quoi. Le jeu est très bien, hein, ça n'empêche pas. Mais bon, c'est un peu dommageable d'avoir sorti aussi rapidement après un coup d'éclat comme Origins.
Je me souviens qu'on trouvait tout ça un peu improbable et trop tôt quand on avait eu les premières fuites à propos de Legends d'ailleurs.
Maintenant, c'est vrai que Rayman pourrait venir ou en 2D ou en 3D, ça c'est pas le problème. Effectivement, avec un gameplay vachement plus léché en 2D parce que malgré tout, c'est un jeu qui est très facile à prendre en main, peut-être trop facile. Il y a quelques passages un peu, tu t'arraches les cheveux, mais ça passe quand même. Oui, mais qui reviennent dans 3-4 ans, pardon.
D'accord.
Qui se laissent un peu oublier. Et qui a un truc comme Beyond Gone and Evil. Ou alors, si les gars étaient complètement fous à lier, revenir sur des vieux jeux.
Ouais. Sur mon fin, sur Amstrad.
mais toi, justement, j'en parlais parce que, il y avait des jeux qui sont sortis effectivement dans l'époque Amstrad, Amiga. Moi, qui m'avait franchement marqué à l'époque.
C'est ce qu'ils avaient fait avec Zombie d'ailleurs, entre parenthèses. Hein.
Zombie, ouais, qui n'avait rien à voir avec celui qui nous a été présenté. Mais...
Il y a comme une filiation involontaire,
oui,
mais une filiation quand même.
Oui, il y a une filiation, bien sûr. Mais ouais, il y avait quand même des jeux. Enfin, moi, un jeu comme BAT, bon, c'était pas eux les développeurs, hein, ils étaient éditeurs à l'époque. BAT, c'était Computer Dreams. Ouais, Computer Dreams, je crois, ouais. Qui faisait ça. Qui était un jeu d'aventure un peu futuriste, cyberpunk, etc. C'était assez génial au niveau du scénar. Bon, c'était écran par écran, tu vois, très textuel, mais c'était vraiment bien. Et l'univers de BAT était top. J'aimerais bien, moi, un BAT. Regarde, tu sais, on a attendu des années pour avoir un Fallout 3, après les versions 1 et 2. Pourquoi pas un BAT? Bon, là, c'est presque 30 ans après, mais pourquoi pas, quoi? Ce serait vraiment formidable.
Alors autant je reste j'ai encore un minimum d'optimisme pour Beyond Good and Evil. Je tiens quand même à préciser que 13 par contre je l'ai placé, mais j'y crois pas du tout. Il y a très très peu de chances parce que ça avait été un échec commercial comme Beyond Good and Evil.
Ah, merde.
Mais contrairement à Beyond Good and Evil, il n'y a pas vraiment une communauté de fans qui est là pour dire hey, on a kiffé. Donc il y a vraiment, je pense, aucune chance que ça arrive.
Très bien. Très bien, très bien.
C'est tout.
Merci à vous deux d'avoir participé, donc je le disais, à cette émission. Merci JB, qu'on retrouve sur theplayer.com, qu'on retrouve donc dans Rétro vers le futur magazine.
Voilà.
Vous pouvez donner au ulule.com/rvlfm7. J'espère qu'on te retrouvera prochainement sur cette antenne.
Mais volontiers.
Avec plaisir.
Volontiers.
Et puis Oscar, @OscarLemaire sur Twitter, bien évidemment, des articles sur Gamekult et dans le Premium.
C'est ça.
Dont les comptes de Monsieur le Maire chaque mois.
Oui, voilà, notamment, exactement.
Si vous êtes branché chiffres, si vous êtes branché industrie, la dépense d'un petit Gamekult Premium, je pense, fera votre bonheur.
Et il y a un mois gratuit.
Pour ceux qui veulent essayer, c'est complètement
sans engagement.
Ah bah voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Le Player Club est une émission produite et réalisée par Radio Kawa. N'oubliez pas le Patreon sur patreon.com/Radio Kawa. 3 auditeurs ont écouté cette émission en direct sur Mumble avec nous et vont pouvoir nous poser des questions hors antenne. Donc c'est vous dire à quel point c'est la folie. Je crois qu'il reste encore une place normalement pour prendre la récompense auditeur libre. Sinon il y a les jolis dessins d'Azmar avec le dessin express et d'autres trucs complètement dingo-dingues. Donc je vous encourage à aller là-dessus pour donner là aussi de l'argent aux émissions que vous aimez bien. La semaine prochaine à la même heure, il y aura pas d'émission parce que TVNR saute une semaine et vous les retrouverez dans deux semaines. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pareil le dimanche 6 décembre, mais très probablement en différé pour un nouvel épisode du Player Club, donc à télécharger et podcaster uniquement. Et puis de toute façon, l'émission Le Player Club, hein, vous la retrouvez 24h sur 24 en streaming, téléchargement et podcast sur Radio Kawa, radiokawa.com. Donc à partir de là, j'ai envie de vous dire qu'on ne se quitte plus. Passez une excellente nuit, je vous dis à très vite et sinon rendez-vous le 6 décembre en téléchargement. Ciao ciao.
On dit souvent que tout était mieux avant. Qu'en pensez-vous, Papy Groublin ?
C'est vrai. Tout était beaucoup mieux avant. À l'exception de la difficulté de l'accès à la musique japonaise.
Coucou, c'est Amo. Kaorin, c'est le podcast musical dédié à la culture visuelle japonaise. Générique et soundtrack d'anime, JRPG, visual novel, toutes les époques, tous les genres, que vous soyez otaku ou non. Kaorin, votre podcast musical d'1h30 sur la culture visuelle japonaise, c'est sur Radio Kawa.
Puis on n'avait pas de doujin hentai ni zekai non plus.
Mais arrête pépé.
Dans Carrément Méchant, Émilie et Yann se retrouvent pour mettre à sac l'actualité internationale, française, suisse et même ultra-locale. De Pékin à Reconvilier, des groupes terroristes aux élections communales, du président des États-Unis au maire de Bordeaux, de l'armée suisse à la chaîne Fox News et des listes trop longues aux scientologues, rien ne leur échappe. Ou presque. Carrément Méchant, une émission doucement satirique sur Radio Kawa.